D'une certaine manière, le cours que j'ai enregistré, c'est peut-être le cours le plus technique de notre itinéraire. Donc, il ne faut pas vous affoler, mais c'est le cours qui est, dès lors qu'on entre dans les différentes théories éthiques à partir du XIVe siècle, ça devient un peu technique parce que c'est la période où la morale devient surtout une technique. Comme vous l'avez compris, et une des études de cas. Et donc, j'ai pris l'exemple des études randomisées en médecine, parce que c'est une bonne application, je trouve, de la casuistique. Ça pourrait, en tout cas, ça pourrait. Et puis, parce que c'est d'actualité. Mais le mouvement que j'ai essayé de décrire. Après Saint Thomas, donc après le XIIIe siècle, c'est donc un mouvement qui, on pourrait dire, intellectualise de plus en plus la morale. C'est un comble parce que dire ça après Saint Thomas, mais enfin, disons, donne une version de plus en plus juridique et de plus en plus spéculative de la morale. Hein? Il y a une façon de traiter des cas. Les études de cas qui est très spéculative et qui n'a plus du tout de lien ou très peu de lien avec la morale des vertus qu'on avait identifiée avec les pères de l'Église ou avec saint Thomas. Alors, peut-être un petit, juste avant de vous laisser la parole, un petit complément, mais vous allez voir, c'est pas seulement un complément, c'est important de le dire. La morale en place à partir de Guillaume d'Ockham, c'est une morale de plus en plus centrée sur la loi. Hein, c'est vraiment le.
Pourquoi? On n'a pas entendu. Ça coupe tout le temps.
La leçon de l'évolution moderne de la morale. Bon. En conséquence de quoi
Ouais, le
la
son est
morale.
bon.
Allô? En conséquence de quoi la morale qui s'intéresse de plus en plus à la loi, c'est une morale qui s'intéresse de plus en plus au péché. C'est la conséquence de cette morale centrée sur la loi, c'est une morale qui se centre sur les infractions à la loi, c'est-à-dire au péché. Et cela aboutit, si vous voulez, au traité de théologie morale que vous trouvez encore maintenant, je pense, dans les bonnes bibliothèques diocésaines, par exemple, ou les bibliothèques de monastères ou d'abbayes. Quand vous trouvez des traités de morale du début du XXe siècle, vous verrez que c'est en réalité des listes d'infractions à la loi, donc des listes de péchés à l'usage des confesseurs. Hein, à l'usage des confesseurs. Donc la morale va peu à peu se centrer de plus en plus sur le péché et s'éloigner de plus en plus de la vertu. Hein, et ce qui aboutit à un effondrement de la théologie morale au début du XXe siècle, dans le premier quart du XXe siècle, avec une morale qui est essentiellement une morale de la loi, et où même dans les séminaires, hein, on n'enseigne quasiment plus les vertus aux futurs prêtres. On n'enseigne que la confession des péchés. Hein. Il faut penser, si vous voulez, un petit peu au curé d'Ars. Hein. Il est très probable, je n'ai pas vérifié, mais que le bon curé d'Ars a dû être formé à la. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que c'est comme ça qu'on le présente souvent. C'était un confesseur, et donc le confesseur s'occupait des infractions à la loi, donc des péchés. Mais probablement à l'époque du curé d'Ars, la morale était très très éloignée, la théologie morale, de ce que saint Thomas enseignait en termes de vertu. On en parlait encore des vertus, mais ça intéressait.
Oula.
Chargé d'absoudre les péchés. Voilà, alors c'est ouvert à vos questions. Je vois qu'il y a il y a Claire qui est peut-être avec nous, je ne sais pas. Si vous êtes avec nous, tapez trois fois sur la table. Voilà, alors écoutez, c'est ouvert à vos questions maintenant. Hein.
J'ai une question un peu transverse, oui. un peu mauvaise. Je suis désolée. Hein, frère, hein, mais...
Qui parle là, Christine, c'est ça?
Ceux qui sont en cours avec moi ne seront
pas. Guillemette, oui.
Ceux qui sont en cours avec moi ne seront pas étonnés de ma question. Mais bon, ouais. L'année n'est pas terminée. En fait, entre le moment, la naissance du christianisme, les premiers pères, saint Thomas d'Aquin, la casuistique et l'ère moderne, comment est-ce qu'on peut caractériser ce fil presque invisible qui consiste à être, entre guillemets, chez les premiers Hébreux, un dieu très pesant, presque de soumission chez les Juifs. Et aujourd'hui, vous dites dans la fin de votre cours, la morale du sujet autonome avec la grandeur de la liberté humaine, il y a un espèce de cheminement presque invisible où en fait il y a un travail pour séparer l'homme de Dieu. Est-ce que je me trompe en disant ça, que finalement le transhumanisme auquel on assiste aujourd'hui, et même, je ne sais plus comment s'appelle ce courant qui confond l'homme avec la totalité de l'espèce humaine, qui l'intègre dans la totalité de l'espèce humaine comme un animal à part entière.
Oui, c'est l'écologie profonde.
Voilà.
Oui.
Voilà. Comment on appelle cette espèce de mouvement qui déspiritualise la morale?
Alors, d'abord, il faut pas caricaturer la morale. La morale, je sais pas du tout ça. La morale, ce qui serait la morale de l'Ancien Testament n'est pas du tout une morale qui serait centrée sur la loi. Pas du tout. Il y a une morale. Si vous dites ça, c'est que vous faites équivaloir la morale de l'Ancien Testament. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'y a pas de morale de l'Ancien Testament, selon ce que j'ai. Mais au décalogue conçu comme 10 commandements. Mais le rapport de Dieu dans l'Ancien Testament, le rapport de l'homme à Dieu, est d'abord un rapport d'écoute, écoute Israël, et un rapport d'obéissance filiale, et un rapport très, si je reprends votre terme, très spirituel, hein, très au Dieu qui parle. C'est d'abord un Dieu qui parle, et donc c'est d'abord une révélation, et on ne peut concevoir les aspects moraux, on va dire, du Premier Testament que dans ce rapport d'écoute et de vocation. La morale de l'Ancien Testament, c'est d'abord une morale de vocation, c'est-à-dire parle, ton serviteur écoute. Et cette idée de parle, ton serviteur écoute, on la retrouve tout à fait dans l'accomplissement du Nouveau Testament, où celui qui écoute le Père, c'est le Fils.
Oui.
Et nous-mêmes qui sommes des disciples, on retrouvera ça, si vous voulez, dans cet essai bien connu de spiritualité chrétienne qui est l'imitation de Jésus-Christ. Hein, c'est un texte célèbre de la tradition spirituelle. Je reprends le mot imitation parce qu'il s'agit de à travers l'imitation, ce qu'on veut dire, c'est que nous écoutons d'abord. Hein, on retrouve ça dans comment dirais-je ? Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bon, dit le père. Hein, donc attention à ne pas partir d'une certaine caricature de la morale du Premier Testament. Ensuite, je suis plus d'accord sur la seconde partie de votre question, qui est déjà une argumentation d'ailleurs. Oui, c'est légitime. Il y a une certaine morale chrétienne, c'est vrai, qui s'est éloigné finalement du christianisme. Ça, je pense, c'est vrai. C'est-à-dire que cette morale qui s'est peu à peu centrée sur la loi, à partir du XIVe siècle, est une morale qui va réduire le rapport de l'homme à Dieu au respect de la loi. Hein, c'est-à-dire qui va déconnecter la morale de la question du don de Dieu et du salut, et évidemment de sa vie spirituelle. Évidemment de sa vie spirituelle. Bon, la vie spirituelle.
On est dans une judiciarisation du rapport à Dieu.
Oui.
Comme on est dans une judiciarisation de la société civile aujourd'hui.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est le drame de cette judiciarisation qu'on retrouve aujourd'hui dans les procédés, dans l'éthique procédurale, les protocoles, etc. Cette judiciarisation s'est émancipée de l'héritage judéo-chrétien. L'héritage judéo-chrétien, ce n'est pas d'abord ça, c'est une morale de l'écoute. Hein. Écoute Israël, voici ton serviteur, c'est vraiment c'est ça, vous voyez. Et effectivement, la judiciarisation a été portée par l'autonomie des morales sécularisées qui sont les nôtres aujourd'hui, a été portée, amplifiée par les morales qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, qui sont des éthiques ou des morales, peu importe le terme, hyper sécularisées et qui, pour qui la question du salut, si vous voulez, mais je vais prendre un exemple d'actualité. Quand M. Castaner vient de dire que la question de la prière est une question personnelle, hein, pour s'expliquer un petit peu par rapport au report de l'ouverture des églises, la réouverture des églises, dire que la prière est une affaire personnelle, c'est vrai, mais ça n'est pas que cela, ce n'est pas que vrai, c'est-à-dire la prière a aussi besoin de rites et d'une communauté pour être célébrée, et ça c'est plus conforme à la tradition chrétienne, mais l'homme autonome prie seul, il n'a pas besoin d'expression communautaire. Donc c'est une on pourrait rattacher ce qui est à mon avis plutôt un fait d'ignorance de Monsieur Castaner, mais on pourrait rattacher ça à l'idée de la solitude de l'homme qui prie. Mais si vous voulez, l'homme qui prie tout seul en pratique, c'est le moine. C'est la définition du moine, monos, hein, il prie seul, sauf que le moine prie en communauté. Voilà. Et donc, mais c'est sûr que dans la modernité qui est la nôtre, on fait tout seul, hein, et on se retrouve tout seul devant notre écran à plusieurs. Hein, c'est ça. Donc, cette petite réflexion de Castaner était très moderne, mais très naïve en même temps, hein, et en réalité, pour une bonne partie, au moins pour 50% de son inexact.
Il est ministre de l'inculte intérieur, c'est ça.
Il est ministre de l'intérieur et des cultes, oui. Oui.
En étant un culte.
Ça, je ne sais pas s'il l'est, mais je ne me permettrai pas de le dire, mais en tout cas, sa remarque... ne traitait que 50% de la vérité, c'est sûr.
Je vais revenir sur une question que vous aviez posée au cours précédent. Vous aviez demandé de réfléchir à la place dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, de la morale. Donc, est-ce que vous avez des explications complémentaires par rapport à ça ? Moi, personnellement, j'ai regardé le plan et ça me semblait logique parce que pour moi, la morale.
Alors, je ne sais pas qui est la question là. C'est Antoine, non ?
C'est Antoine, oui. La morale découlerait en fait de la révélation du Christ. Effectivement, en plein milieu de la somme de saint Thomas d'Aquin.
Je ne vous entends plus du tout là.
Ah, attendez. C'est parce qu'en fait, mon micro est un peu caché.
Voilà. Ouais.
Ici, ça va mieux là, comme ça ?
Oui, là, ça va mieux, oui.
Voilà. Donc, j'ai regardé le plan et la morale.
Antoine, votre micro est coupé. Antoine. Ah, votre micro est coupé.
Oui, oui, mais c'est pas moi qui parle, c'est Monsieur Kézerg.
Oui, c'est moi. Donc,
c'est votre vidéo qui est coupée alors, oui.
Oui, c'est Antoine sans H.
D'accord, mais on ne voit pas votre visage. D'accord.
Oui, parce que j'utilise mon grand écran, il n'y a pas de caméra dessus.
Ah, d'accord. Ah.
Et donc, en fait, la place de la morale, en fait, est en plein milieu du plan.
Oui.
Et bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, alors, très naïvement sans doute, parce que pour moi, la morale découlerait de l'enseignement, en fait, du Christ. Et donc, je l'aurais plutôt vu à la fin, mais c'est sans doute une approche très lapidaire.
Non, mais c'est une question à laquelle j'ai apporté des éléments la semaine dernière, à savoir. Non, il n'y a pas de problème. Votre remarque est. En tout cas, vous avez fait une bonne observation. C'est effectivement, la morale est au deuxième plan. Deuxième plan, ça ne veut pas dire qu'elle est. Elle est moins importante. Ça veut dire que la logique de saint Thomas, c'est de d'abord poser l'existence de Dieu et du Dieu un et trinitaire pour parler ensuite, pour parler seulement ensuite de la morale, c'est-à-dire que et du Christ, et encore après des sacrements. C'est-à-dire que la morale chez saint Thomas, c'est ce qui permet, pour une certaine part, d'être une plateforme commune avec les incroyants. Vous voyez, c'est pas du tout une. Saint Thomas ne commence pas l'annonce de la foi chrétienne par la morale. C'est pas. Voyez, mais on faut faire très attention quand on dit ça, parce que le plan de la somme, c'est pas du tout un tiercé gagnant où la première partie est plus importante que la seconde et encore plus importante que la troisième. On peut commencer près de la lecture de la somme par la fin, c'est pas un problème. Ça n'est pas un ordre de priorité, c'est une connexion, si vous voulez, intime. Mais vous avez raison de dire que saint Thomas a fait le choix de mettre la morale en deuxième partie, c'est tout sauf neutre. C'est un choix qui se justifie parce que on peut très bien avoir une vie morale authentique sans être chrétien. C'est une façon assez moderne, si vous voulez, que saint Thomas a choisi de faire de la morale, de ne pas placer en tout premier enseignement la morale. Cela dit, ça correspond aux grandes intuitions. Heureusement que ça correspond à ce que Vatican II dira. J'ai avec les hommes et les femmes de bonne volonté un certain nombre de valeurs morales. Mais il y va de soi que la morale chrétienne, lorsqu'elle est, si vous voulez, portée par les vertus, notamment les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, est totalement renouvelée par rapport à la morale païenne, si vous voulez, pour aller vite.
Ok.
C'est ce que j'essayais de dire, puis je voulais prendre la question, c'est ce que j'essayais de dire en distinguant, les pères n'auraient jamais fait comme ça, les pères ne faisaient pas comme ça. Mais saint Thomas, je pense que saint Thomas l'a fait parce que on dit souvent que saint Thomas présente une version optimiste de la morale chrétienne. Optimisme, pessimiste, je ne sais trop rien, mais c'est sûr que c'est une morale de la. La morale de saint Thomas, c'est une morale qui fait confiance aux capacités rationnelles de la personne humaine, parce que ces capacités ont été déposées par Dieu en chacun de nous. Donc c'est effectivement une morale, nous sommes capables d'une vie vertueuse. C'est une morale de la confiance, c'est certain. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus optimiste que saint Augustin.
Oui, je voudrais revenir sur le lien entre la casuistique et puis saint Thomas. Vous nous avez bien expliqué la dernière fois, et c'était très intéressant, je trouve, qu'il y avait des casuistes qui utilisaient mal la casuistique et ils avaient détruit la cathédrale de saint Thomas.
Oui.
Après, vous avez dit à un moment donné, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez dit, idéalement, il ne faudrait pas opposer la casuistique à saint Thomas.
Bien sûr.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Moi, je crois que non seulement il ne faut pas les opposer,
c'est une espèce,
si on enlève la casuistique à la morale de saint Thomas, on casse la prudence et donc on casse la cathédrale de saint Thomas. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé la casuistique, que ça s'appelait des écoles casuistiques, qu'on ne peut pas bien utiliser. Et saint Thomas lui-même l'a utilisé, il a défini les circonstances, et c'est pour ça que je pense, non seulement ce n'est pas opposé, mais c'est entièrement dans la cathédrale. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Parce que sinon, la prudence ne marche pas.
Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais si vous voulez, la casuistique, elle est évidemment présente chez saint Thomas. Mais c'est pour ça que je vous proposais de faire l'exercice de regarder le catéchisme. Dans le catéchisme sont exposées les circonstances. Bon, les circonstances, c'est une des dimensions de l'acte moral, une dimension d'ailleurs assez secondaire dans le catéchisme, et chez saint Thomas aussi d'ailleurs, enfin plus ou moins. Mais dans le catéchisme, c'est quand même très secondaire. Donc oui, la casuistique, elle est en germe chez saint Thomas, bien sûr, mais les écoles casuistiques que j'ai un peu stigmatisées, je ne suis pas le seul, si vous voulez, c'est comme si, pour prendre l'image de la cathédrale, c'est comme si on isolait une voûte ou un arc de l'ensemble de la cathédrale. Vous voyez,
vous avez raison, mais il ne faut pas qu'on fasse l'inverse. Il ne faut pas non plus qu'on enlève la casuistique.
Historiquement, je pense que ça ne craint rien, puisque saint Thomas est celui qui a posé l'équilibre entre foi et raison au XIIIe siècle. Il s'agit bien du XIIIe siècle. La casuistique, les écoles de casuistique sont beaucoup plus tardives. Donc, à moins de réécrire l'histoire, il n'y a aucun danger qu'on puisse opposer les deux. Hein. C'est bien saint Thomas qui précède. Je ne pense pas qu'il y ait de raison d'opposer les deux. Hein. On opposerait les deux, on peut opposer les deux. Enfin, si vous regardez quand même la morale à la fois très... très juridique et très spéculative après saint Thomas d'Aquin, elle est quand même très très loin de la somme de théologie. Hein. Je ne dis pas qu'il faille les opposer, certainement pas, mais c'est loin, loin.
Vous avez raison, simplement, vous prenez le cas de casuistes qui ont très mal utilisé la casuistique et ils ont cassé la cathédrale. Parce qu'ils n'ont pris que ça, fondamentalement, ils ont cassé la cathédrale. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé la casuistique qu'on ne peut pas bien l'utiliser. D'ailleurs, l'application
de la prudence
implique qu'on fasse de la casuistique.
Georges ?
Oui, mais il ne faut pas vous inquiéter là-dessus parce que, la casuistique, il y a une grandeur de la casuistique et elle est toujours utilisée, y compris dans l'éthique procédurale actuelle, on ne peut pas s'en passer. Si vous voulez. Il y a même, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je pense à la faveur de l'éthique procédurale notamment, un certain regain d'intérêt pour la casuistique. Et les études qui paraissent montrent un nouvel intérêt pour la casuistique, mais une casuistique bien comprise, une casuistique qui... Mais la tentation de la casuistique, c'est toujours de s'isoler, si vous voulez, hein, et de fonctionner en vase clos. Mais bien entendu, on ne peut pas s'en passer, et il y a une grandeur de la casuistique qui tient en particulier à la qualité des raisonnements. Et la casuistique, si vous voulez, elle permet fondamentalement de trancher dans les conflits de conscience. C'est quand même quelque chose, c'est un outil très précieux. Mais ça n'est qu'un outil, voilà.
Mais, si je peux me permettre, pour en revenir au sujet de la morale, dans votre exposé, dans votre cours, vous mettiez en avant tous les chapitres que saint Thomas a consacrés à la prudence. Et oui. Quand on parle de prudence, on parle entre autres de la prise de décision. Aujourd'hui, dans les théories du management, on se réfère à saint Thomas d'Aquin
qu'on appelle Thomas d'Aquin, parce qu'il ne faut pas dire saint, ça serait trop violent. Et en fait, l'année dernière, moi, j'ai fait une conférence sur la prise de décision et je me suis donc basée sur une partie pour la littérature sur Thomas d'Aquin. Et en fait, en dehors du mécanisme lui-même de la prise de décision, ce qui est intéressant chez saint Thomas d'Aquin et qui rejoint quand même une partie de ce que vous avez expliqué sur la morale chrétienne, c'est la différence entre homme et humain. Ce qui est ressorti, entre guillemets, et qui est applicable de façon contemporaine aujourd'hui à la morale chrétienne de saint Thomas appliquée à la prudence et donc à la prise de décision, c'est la finalité de l'humain. C'est que, en fait, toute personne qui est responsable, et je pense qu'en fait saint Thomas d'Aquin explique sur la responsabilité dans la morale, c'est-à-dire sur les conséquences de ce qu'on fait, et ça c'est de la casuistique, c'est de la capacité à analyser le fonctionnement d'une décision ou d'un acte qu'on commet, mais sa finalité à lui, c'est quand même qu'est-ce qui est bon dans une décision ou dans un système, en l'occurrence la prudence, pour l'homme, qu'est-ce qui est humain dans ce que je vais faire au final ?
Oui, je ne peux être que d'accord, mais est-ce que c'est typique de saint Thomas, ça ? Je pense que vous dressez le portrait de l'homme ou de la femme morale depuis Jésus-Christ. Enfin, et donc je suis d'accord avec vous, mais est-ce que, par exemple, vous dites responsabilité ? Responsabilité, c'est pas vraiment un mot de saint Thomas. Vous le trouvez ici en latin, effectivement. L'idée de répondre, de respondeo, c'est même je réponds. Donc, mais c'est pas responsabilité, autonomie également, et dans une certaine mesure conscience. Mais parce que ça, c'est surtout un vocabulaire postérieur à saint Thomas. Hein, ça suppose, mais il y a évidemment le traité de la conscience chez saint Thomas. On connaît le traité de la conscience chez saint Thomas parce que si vous avez expliqué la morale de saint Thomas à un groupe, dans ce cas-là, on explique souvent l'idée de conscience erronée. Bon, la conscience erronée, c'est effectivement une idée sur laquelle saint Thomas réfléchit. Bon, et ça, c'est
là encore,
camarade, il est clair qu'on peut prendre ce qu'il y a de saint Thomas et puis isoler saint Thomas, isoler telle ou telle partie de saint Thomas et l'actualiser. Bon, mais ce que vous dites est vrai, avec un vocabulaire qui est à la fois de saint Thomas et très moderne, c'est-à-dire postérieur à saint Thomas.
Oui. Moi, je voulais revenir sur l'acte. Hein, je sais pas si on
m'entend. J'ai pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. L'éthique de la responsabilité, c'est le, si vous voulez, c'est formulé comme ça, c'est tout à fait postérieur. Ça suppose en particulier le siècle des Lumières. Hein? Mais l'éthique de la responsabilité, elle est déjà présente chez saint Thomas, on est d'accord. Mais vous voyez, à moins de faire télescoper toutes les époques, il vaut quand même mieux se dire que responsabilité, autonomie sont des morales qui supposent la révolution kantienne en particulier. Hein. Dans l'univers de saint Thomas, nous sommes plutôt dans l'univers aristotélicien, donc nous sommes effectivement du côté de la prudence et de la sagesse prudentielle, tout à fait, alors que la responsabilité et l'autonomie nous font davantage basculer au siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y avait une autre question, je pense.
Oui, c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Par exemple, quand Rabelais dit, qui n'est pas, je ne pense pas, un très grand chrétien, mais « science sans conscience n'est que ruine de l'âme »,
oui.
Il est dans la lignée de saint Thomas, il est dans la morale chrétienne ou tout simplement dans la responsabilité de l'acte humain ?
Ah, ça, c'est une question très intéressante. à laquelle il n'est pas si facile que ça de répondre. D'abord, un premier point d'observation, une première remarque qui concerne Rabelais, mais qui concerne la littérature en général. La littérature, et vous me donnez l'occasion de le dire, est un lieu d'étude de la morale extraordinaire et que malheureusement, les théologiens connaissent trop peu. Parce que les théologiens sont plus proches de la philosophie que de la littérature, c'est une erreur. Parce que la Bible, d'ailleurs, la littérature biblique, hein, ne serait-ce qu'avec les récits, mais tous les genres, y compris la poésie, les métaphores, etc., sont des sources pour le moraliste. D'ailleurs, être moraliste autrefois, enfin, être moraliste, c'est une façon de faire de la littérature. Enfin, on peut penser à Champfort, par exemple, ou à d'autres. Hein. Voilà. On peut penser au portrait. Allons-y pour La Rochefoucauld. Allons-y pour. C'est un lieu source pour la morale qui est à la fois capital et trop délaissé, beaucoup trop par les théologiens qui ont. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le statut, comme vous le savez, de la philosophie, c'est d'être considéré comme la servante de la théologie. Et donc, la philosophie est la discipline qui est par excellence la servante de la théologie. Les philosophes, maintenant, ont beaucoup de mal avec cette idée, mais au moins à l'époque médiévale, c'était ça. Bien. La littérature, ça n'est que de la littérature pour les théologiens, parfois. Mais c'est une terrible erreur. Terrible erreur parce que ne serait-ce que l'art du portrait ou tout simplement pour ne pas parler du théâtre, enfin, c'est une source extrêmement puissante d'inspiration et de vérification de l'âme humaine. Enfin, voilà, alors quand Rabelais s'exprime sur la conscience, on ne peut pas laisser la conscience, comme je dis toujours, il ne faut jamais laisser la morale au moraliste, donc il ne faut jamais laisser la conscience aux moralistes, hein, il faut toujours aller regarder d'autres. Alors, la conscience, c'est pas quelque chose que saint Thomas a. Si vous voulez, on ne trouve pas dans la littérature hébraïque, donc la Bible, hein, on ne trouve pas chez les pères non plus, à ma connaissance, pas tellement. De réflexion sur la conscience, mais plutôt sur, dans la littérature grecque, la question c'est celle de l'âme, d'accord ? Et dans la littérature biblique, surtout la plus ancienne, la question c'est celle du souffle, c'est-à-dire de l'esprit. Bon. La conscience et la somme de théologie servait de base à l'enseignement. Hein, avant saint Thomas d'ailleurs, avant saint Thomas, il y avait un livre qui servait également de référence et qu'on commentait tout le temps, c'était le livre des sentences. Bon, c'était le Lombard, hein, voilà. Alors, il est évident que la conscience est un des traités les plus merveilleux de la somme de théologie, comme la prudence d'ailleurs. Hein, mais la conscience, et là on revient à la question précédente. On peut l'extraire de l'équilibre de la somme et en faire un traité à part. La conscience de l'homme moderne n'a plus besoin de Dieu pour décider en conscience. Elle décide seule. Le sujet autonome décide en conscience, tout seul, d'accord ? Encore avec la prudence, oui, mais une prudence, on ne sait même plus qu'elle vient des Grecs. Et certainement pas de saint Thomas, à moins qu'on le lui dise. Hein. Mais c'est d'abord l'homme moderne, c'est le drame de l'humanisme moderne, c'est le drame de la conscience auto-réflexive, hein, et qui deviendra, dans la philosophie du XIXe siècle, une conscience malheureuse, hein, chez certains philosophes, une conscience angoissée, ou dans des versions proches de la littérature et de la philo, une conscience tragique, hein, conscience tragique, conscience malheureuse, conscience angoissée, et souvent, bien sûr, dans toutes ces littératures-là, une conscience sans Dieu, hein, qui n'a plus besoin, comme disait le physicien, je n'ai plus besoin de l'hypothèse Dieu dans mon système. La conscience a été extraite, et les quatre consciences, c'est la même chose, conscience et quatre consciences ont été extraits de l'équilibre métaphysique de saint Thomas et ont fonctionné, si vous voulez, à part, hein, et donnent les versions d'éthique sécularisée qui sont les nôtres. Hein, les éthiques sécularisées qui sont les nôtres sont des éthiques de la conscience, sont plus des éthiques de la... Enfin, il y a eu aussi un retour, un retour des vertus, parce qu'il y a toujours le retour de la manivelle, hein, mais de même que la casuistique a fait, depuis une dizaine d'années, un peu plus, a fait un retour en force dans l'éthique, les vertus aussi, hein, notamment aux États-Unis, avec si vous pouvez lire ça, c'est bien aussi, un ouvrage très célèbre de philosophe qui s'appelle McIntyre, philosophe américain, anglo-américain, McIntyre, Alasdair McIntyre, qui a écrit un livre qui s'appelle « Après la vertu ». Et qui cet ouvrage-là, au tournant du XXIe siècle, si vous voulez, a marqué un rappel, une réimportation des vertus dans la réflexion éthique. Mais les vertus étaient caricaturées, les vertus, on les associait au... quand on parlait des vertus dans les années 70, on les associait au catéchisme d'autrefois, et elles étaient totalement dévaluées, personne ne parlait plus des vertus. C'est amusant parce que parfois, vous savez, on ne sait même plus l'origine chrétienne ou judéo-chrétienne de certaines notions. Et elles reviennent parfois en boucle sans que les gens qui les réinvestissent se disent « Oh, mais en fait, c'est de l'héritage judéo-chrétien. » Et même, il faudrait dire judéo-gréco-chrétien. Ce thème-là, c'est évidemment la matrice. Hein. La matrice, elle est là. Parfois, on réimporte des notions, comme les vertus, en ayant complètement oublié la source. Ou on utilise des cas, on revalorise la casuistique en oubliant complètement que c'est saint Thomas qui en est un des fondateurs, si vous voulez. C'est fou la réutilisation de notions chrétiennes coupées de leur héritage. Oui.
Estime. Oui, justement, j'ai une question parce que j'ai pas très bien compris. Donc, quand vous, dernier cours, vous avez parlé justement expliqué les vertus comme des dispositions à agir selon le bien. Or, dans le catéchisme, il est bien développé que les vertus, comme les passions, sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais en gros, ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais selon la visée.
Oui, voilà. C'est ça. La vertu, c'est, c'est la même chose. C'est redit dans des termes différents ou très voisins, la même chose. Hein. C'est-à-dire que il s'agit, que ce soit pour les passions ou les vertus, d'agir selon le bien. La vertu nous rend disponible pour agir, nous dispose pour agir selon le bien. Et les passions, chez saint Thomas, sont neutres.
Ah, hein. Sont les passions qui sont neutres, pas les vertus. Les vertus, elles sont tournées vers le bien.
Ah oui, les vertus sont tournées vers le bien.
C'est ce que j'avais pas bien dissocié les deux. D'accord.
Les passions sont neutres. Tout dépend ce que l'on en fait.
Merci, très bien.
Vous nous avez bien expliqué donc qu'à partir du XIVe siècle, la morale a cassé la cathédrale, donc l'équilibre de saint Thomas. Oui. Est-ce qu'on peut venir un peu sur le 19e, 20e, 21e siècle, sur la néo-scolastique, parce que j'ai compris que vous disiez que même la néo-scolastique n'est pas une scolastique selon saint Thomas, ou c'est pas la bonne façon de faire du saint Thomas. Voilà, j'ai pas compris cet aspect. Est-ce que vous pouviez approfondir un peu?
Oui, alors il faut bien vous dire que la présentation que je vous fais là de Thomas et du thomisme, c'est une présentation extrêmement discutable. C'est-à-dire que moi, je trouve, mais on est quand même beaucoup à penser ça, que les premiers disciples de saint Thomas se sont éloignés du maître, si vous voulez. Mais vous avez, il faut le dire en toute honnêteté, hein, vous avez des théologiens qui sont très, très à l'aise avec Thomas et les thomistes, et qui trouvent au contraire, moi j'aurais tendance à une rupture, mais d'autres pourraient tout à fait souligner les continuités. Hein. C'est, vous trouvez par exemple, d'ailleurs, normalement quand on est thomiste, on est disciple, on assume saint Thomas et les disciples de saint Thomas, y compris les plus spéculatifs, comme Jean de saint Thomas ou... dans ce cas-là, là, vous savez, le thomisme et l'éthomisme, il y en a des rayons de bibliothèque ou de librairie, on distingue, pour s'y retrouver dans ces querelles d'école, on distingue, on donne deux adjectifs différents, on dit vous êtes thomiste ou vous êtes thomasien. Ce sont deux gros mots différents. Thomasien, ça veut dire que vous vous en tenez strictement à saint Thomas. Thomiste, ça veut dire que vous assumez saint Thomas et toutes les versions après saint Thomas. Donc moi, je suis clairement plus thomasien que thomiste, si vous voulez, parce que, voilà, pour une question de choix et de... Mais vous trouvez, sur la casuistique, comme sur d'autres sujets, des auteurs qui sont...
Oh, mon Dieu.
Qui, si vous voulez, qui vont vous présenter les thomistes comme... une version philosophique et spéculative dans la continuité exacte de saint Thomas, sans problème.
Oui,
c'est très varié. Et la néoscolastique a été donc réintroduite avant par dans l'encyclique Aeterni Patris. C'est une encyclique qui a voulu et vous avez actuellement plusieurs. Vous avez un devenir des études thomistes qui est extrêmement varié. Hein. Vous avez des thomistes qui sont très proches de saint Thomas, ce qu'on appelle l'école historique de saint Thomas. L'école historique de saint Thomas, c'est ce qu'on appelle c'est le père Chenu en France, Marie-Dominique Chenu, dominicain. Et puis vous trouvez ça à l'école du Sauchoir, donc chez des dominicains du Sauchoir à Paris, où ils travaillent les textes de saint Thomas et des successeurs de saint Thomas. Mais vous avez des thomistes, les thomistes américains, par exemple, aujourd'hui, sont des thomistes très cérébralisés, très intellectualisés, très branchés sur la philosophie, y compris des versions très, 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 très modernes de la philosophie. Donc, le thomisme a donné une efflorescence extrêmement variée jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, et voilà. si je voulais décrire un peu le spectre, il est entre ceux qui sont d'une école plus historienne, si vous voulez, hein, plus attentive au texte, et de l'autre, une école plus spéculative encore aujourd'hui, plus par exemple, pour ceux qui connaissent la philosophie analytique, le courant de philosophie analytique, eh bien, vous avez des thomistes qui sont extrêmement à l'aise avec ça. Donc, c'est un univers extrêmement varié. Hein. D'ailleurs, et puis, vous avez aussi, je me permets de dire, vous avez aussi ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec saint Thomas, y compris dans l'Église catholique. Le pape Benoît XVI...
La question est de savoir pourquoi, parce que le catéchisme est très, très, très proche de saint Thomas.
Forcément, il ne peut pas en être autrement.
Donc, je ne comprends pas comment... on peut être catholique et remettre en cause quand même, je ne parle pas de tous les aspects, mais des aspects fondamentaux du catéchisme qui viennent directement de saint Thomas.
Vous savez, d'abord, être catholique, c'est d'abord... saint Thomas n'est pas une source de la révélation, que je sache, quand on est catholique. Et donc,
le catéchisme, c'est entre guillemets du copier-coller, hein. Très proche de saint Thomas.
J'ai pas entendu.
Le catéchisme, notamment sur la partie morale, mais pas uniquement. oui. est très proche de saint Thomas.
Oui, oui, forcément. C'est le, je vous dis, c'est le, c'est, il peut pas en être autrement. Mais vous avez, on n'est pas, comment dirais-je, le pape Benoît XVI n'est pas thomiste, pas tellement. Si vous voulez, il est plus augustinien que thomiste. Ce sont des courants de pensée. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec saint Thomas. Parce que c'est le docteur angélique, bon, c'est le docteur, si vous voulez, le docteur commun, mais par sensibilité personnelle, certains ont beaucoup plus d'affinité avec saint Augustin. Regardez Benoît XVI, c'est un grand augustinien. Il n'a jamais tellement abondé dans le sens de saint Thomas.
Mais en trois phrases, si possible, vous pouvez nous donner les oppositions, vraiment les divergences fondamentales entre Thomas et Augustin et Benoît et François.
Vous allez réécouter les audios qu'on a fait avec Jean-Yves, parce qu'on a quand même bossé. Hein. C'est exactement les cours audio que j'ai enregistrés. Donc là, il faut réécouter. Parce que Augustin et Thomas, ce sont quand même deux maîtres à la fois très proches et très différents. Vous voyez, pour la morale. Hein. Je ne donne qu'une petite vignette. On associe souvent à Augustin l'idée de pessimisme sur la condition humaine, notamment parce que c'est lui qui a introduit le dogme du péché originel, donc tout un rapport entre le péché et la grâce. Hein. Alors que saint Thomas est décrit comme un optimiste parce qu'il croit davantage dans les capacités de la rationalité humaine. Ce ne sont que des tensions qu'il n'y a aucune raison d'opposer, mais c'est des tensions. Donc certains d'entre nous, certains théologiens sont plus parce que c'est aussi lié à notre histoire et à nos goûts personnels, hein, attachés à saint Augustin, qui a sans doute une version plus tragique de la condition humaine que saint Thomas. Mais vous savez, Augustin et Thomas restent les deux maîtres de la tradition latine en théologie. Je pense que, enfin, comment dire, Jean-Paul II était beaucoup plus thomiste, si vous voulez, que Benoît XVI. Hein. Mais Jean-Paul II citait, pour tout vous dire, un thomisme très tardif. Il y a des études qui ont été faites, des mémoires peut-être d'été, je ne sais plus maintenant, mais sur le thomisme utilisé par Jean-Paul II. C'est un thomisme très tardif. Chez Benoît XVI, c'est son maître à penser, vraiment, on le sent dans tout ce qu'il écrit, c'est Augustin. Beaucoup plus Augustin. Mais il n'y a aucune raison de poser tout ça. Ce sont Augustin ou comme Thomas, ce sont des maîtres spirituels. Donc chacun a la possibilité de se sentir à l'aise et de se mettre à l'école de tel ou de tel.
En soi, il est quoi ? Il est plutôt quoi ?
François. La caricature qu'on fait de François, on dit que c'est pas un pape qui n'est pas théologien.
Pragmatique, alors, plutôt.
Non plus.
Oui, c'est surtout...
prêcheur et prêtre.
C'est surtout un pape pasteur, beaucoup plus qu'un pape théologien. Un peu comme Jean XXIII. On compare souvent François à Paul VI. C'est vrai. Mais je le comparerais volontiers plus moi à Jean XXIII qu'à Paul VI. Mais on retrouve, il y a des traits quand même communs entre François et Paul VI, très forts. Mais
quand vous voulez dire Jean-Paul II tardif, plutôt thomiste tardif, c'est quoi pour vous le sens de tardif? Ça se situe où?
Tardif, ça veut dire que vous trouvez en fait chez Jean-Paul II un thomisme qui est un thomisme, ça répondra à la question de tout à l'heure, centré sur la morale de la loi. Vous voyez, c'est pas un thomisme un thomisme de la dynamique vertueuse. Vous voyez, pas d'abord, c'était pas d'abord ça. C'est un thomisme de l'acte. D'ailleurs, le catéchisme qui est, voilà, pour préciser, c'est un thomisme de l'acte. Le catéchisme actuel est signé par Jean-Paul II. Ce qu'il met en exergue dans le catéchisme, c'est une morale de l'acte. C'est un thomisme de l'acte moral, vous voyez.
Merci.
Il y a quand même, à la base, le salut. Il y a quand même la gradualité, l'idée de gradualité que les actes, c'est fait pour faire progresser pleinement le développement humain. Il y a peut-être des aspects normatifs, mais c'est quand même lui qui a introduit la notion de gradualité, donc l'idée de progression.
Vous parlez de qui? Jean-Paul II?
Bah oui, bien sûr,
c'est lui qui a... Non, pas du tout. Ah bah écoutez, relisez-le attentivement. Il y a même un combat très fort de Jean-Paul II contre la gradualité. Il l'a même dénoncé très fortement. Il a abordé en effet cette question, mais dans un champ pour la délimiter de manière très forte contre un certain nombre de théologiens qui voulaient élargir la gradualité de la loi morale. Et donc, il a restreint le champ de la gradualité de façon extrêmement précise, et il l'a précisé dans ses encycliques ensuite, notamment les encycliques destinées aux moralistes, de façon à ne pas faire un mésusage de la gradualité. Celui qui a rouvert la question de la gradualité, c'est François, à l'occasion du synode sur la famille. Donc là, la gradualité, ça, cher monsieur, on pourrait en reparler, mais le champ de la gradualité chez Jean-Paul II, il est très délimité. Il existe, mais il est très délimité.
Gradualité Jean-Paul II sur Internet, vous allez voir.
Ben, c'est bien. Vous savez, je ne prépare pas mes cours en regardant Internet.
Bon. Moi, je suis obligé de le faire et de comprendre.
Est-ce qu'il y a des situations
historiques? C'est bien. Vous pouvez aussi faire confiance à l'enseignant quand il vous dit quelque chose.
Oui. Est-ce qu'il y a des situations historiques bien précises qui ont favorisé l'évolution depuis saint Thomas jusqu'à aujourd'hui?
Oh, ben, il y en a eu énormément, oui. Il faudrait donner des exemples précis. J'avais donné... au moment de quand j'ai présenté au premier cours, je crois, l'épisode du Concile Vatican II. Vatican II est arrivé dans un contexte complètement qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, un contexte de remarqué avec la pandémie, peut-être que de nouveau ça, mais c'était le contexte de la menace sur le vivant, la menace atomique, la menace, etc. Donc il est évident que les textes moraux de l'Église sont souvent influencés par répondre aux questions du temps. Donc, bien entendu, oui. De même, la théologie morale, comme l'ensemble de la théologie, est devenue une théologie universitaire. Et donc, la théologie universitaire, c'est quand même quelque chose qui colore beaucoup la manière de faire de la théologie, vous voyez, et une théologie qui de plus en plus se sectorise, se fragmente, comme tous les champs du savoir. Alors qu'à l'époque des Pères de l'Église, comme j'essaie de vous le proposer, l'acte théologique est un acte unifié. Et donc, oui, bien entendu, on peut penser d'ailleurs que le synode sur la famille que François a organisé en deux temps est un synode qui permet de la réouverture des questions morales. Enfin, de certaines questions morales qui n'ont pas été abordées à Vatican II. Et donc, ce qui a été beaucoup décrit, c'est au moment du synode sur la famille, c'est tiens, François aborde de nouveau des questions morales qui n'ont pas été abordées à Vatican II. Pourquoi il l'a fait? Parce que probablement, il estimait que les questions de la famille devaient être à nouveau abordées, vous voyez, et donc autrefois les conciles étaient convoqués à chaque fois pour répondre à une hérésie. On, on convoquait un concile pour répondre à une hérésie. On dit, et c'est vrai, je crois, n'a pas été convoqué pour répondre à une hérésie en particulier, mais a été présenté comme un concile pastoral. Voilà, c'est assez différent. Alors maintenant, certains se disent qu'il serait peut-être temps de faire un Vatican III. François n'a pas fait Vatican III. Il a fait un synode sur la famille, ce qui est plus restreint. Hein. Synode qui a plus ou moins abouti, d'ailleurs. Mais enfin, un synode en deux temps qui a permis l'une ou l'autre actualisation de la doctrine. Ouais. Oui, alors sur la question de la gradualité, par exemple, la question a été abordée par le cardinal Schönborn lors du synode sur la famille. Et cette question a été, et le cardinal Schönborn, abordant la question de la gradualité de la loi morale, a été très critiqué par ses confrères, hein, parce que certains ont apprécié qu'il réutilise la notion de gradualité, et d'autres ont dit, oh là là, attention, il ne faut certainement pas ouvrir ce chantier, c'est trop dangereux. Mais parce que depuis Jean-Paul II, les conditions d'usage de la gradualité sont très délimitées. Gradualité, pour vous situer, hein, c'est on ne peut pas comment dire demander à tous la même loi, de suivre la même loi morale, c'est-à-dire selon l'âge que vous avez, selon votre niveau de, je sais pas quoi, d'enseignement, de formation, votre histoire, selon les déterminismes qui sont les vôtres, la loi morale ne peut pas être la même pour tous. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un enfant, par exemple, la même loi morale, etc. Alors, le concept de gradualité, certains en souhaitent une application large, hein, pour finalement décliner la loi morale selon les situations, selon ce que les personnes peuvent en comprendre, selon leur situation de vie, et d'autres, au contraire, souhaitent un encadrement très strict de la gradualité, ce qui était plutôt le cas de Jean-Paul II. Alors, pour sortir de l'ornière au moment du synode sur la famille, le cardinal Schönborn a réintroduit la notion de gradualité. Ça ne lui a pas valu que des compliments.
Mais là, si vous voulez, il y a une confusion entre la loi de gradualité et la gradualité de la loi. Donc, ce que Jean-Paul II a fait, probablement Schönborn aussi, c'est qu'ils ont parlé de la loi de gradualité. Ils n'ont pas dit que la loi est différente selon les personnes. La loi est la même, mais ils ont dit que l'appréciation des comportements, c'est très différent.
Voilà, ben c'est la notion qui nous manquait pour nous comprendre, cher monsieur. Donc, nous sommes bien d'accord, mais encore faut-il exprimer les choses dans les bons termes. Gradualité de la loi, loi de gradualité. Voilà, voilà. Là, nous sommes d'accord.
Juste une réflexion. François parle de l'Église qui va aux périphéries et qui n'a pas peur d'être boueuse, ça s'allie aussi avec ce concept de gradualité. Et qui est une église de campagne qui n'a pas peur d'être boueuse et sale.
Oui.
C'est aussi en lien avec la loi de gradualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers les élites.
Oui, enfin, si vous voulez, c'est. Oui, bien entendu, oui. Alors, la notion de périphérie, c'est une notion qui est chère à François, c'est absolument pas une notion théologique. Bon, c'est plutôt une notion pastorale, mais. C'est ce que effectivement, le fait d'être une église des périphéries qui tient compte des... En fait, c'est dire quoi ? Ça veut dire que, comme chrétiens, nous devons tenir compte des gens qui sont loin de l'église, voire parfois loin de la foi, ou plus ou moins, n'est-ce pas ? Donc, la périphérie, c'est aussi ce que François appelle l'église inclusive, hein. Donc qui inclut, qui ne laisse pas les gens à l'écart, loin d'elle, mais qui inclut le plus de personnes possible en son sein. Et donc c'est une notion qui n'est pas spécialement théologique, qui est plutôt pastorale, mais qui finit par devenir théologique quand même, parce qu'il s'agit de développer justement une pastorale qui permette d'accueillir le plus largement. Vous voyez, c'est aussi quand, c'est la même chose quand il dit que l'Église n'est pas une douane, qu'il n'y a pas de douane. Bon, la douane, ça peut s'appliquer à la morale aussi. Bon, ben, la morale n'est pas une douane, elle est plus vertueuse que d'être une douane. Voilà. L'Église inclusive permet en effet de ne pas tenir à l'écart des gens qui auraient pas, qui seraient pas tout à fait dans les normes morales, si vous voulez, c'est ça. On retrouve l'idée chez le théologien Xavier Thévenot, hein, quand il parle d'une flexion des normes morales, dans certains cas, flexion des normes morales. Mais ça passe pas dans tous les... Vous savez, le synode sur la famille a donné lieu à de nombreuses controverses, de nombreuses querelles, et ça s'est pas toujours très très bien
passé.
Voilà, il est 15h07. Peut-être une dernière question.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.